Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un très long calvaire, les mots du procureur de Mulhouse pour qualifier la séquestration du petit garçon de 9 ans, resté plus d'un an dans une camionnette en Alsace, enfermé par son père, retrouvé la semaine dernière nu et dénutri en privation de soins. La très contestée loi Yadan visant à contrer les formes renouvelées d'antisémitisme au programme des députés aujourd'hui et demain. Et le Bayern Munich sur la route du PSG pour se hisser dans le dernier carré. Les Bavarois ont dû écarter le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions hier soir. 4-3.
Il a vécu l'enfer.
Ce petit garçon de 9 ans, retrouvé la semaine dernière à Hagenbach dans le Haut-Rhin, séquestré un an et demi dans une camionnette par son père, Julie Brault du service police-justice. RMC, l'enfant a été entendu, il s'est confié aux enquêteurs racontant l'horreur qu'il a vécue.
Oui, le petit garçon s'est longuement confié à deux enquêtrices spécialisées. Il leur a assuré que c'est à cause de sa belle-mère qu'il a été séquestré dans la camionnette, car elle menaçait de le placer en hôpital psychiatrique, a indiqué le procureur de Mulhouse.
Il expliquait avoir de très mauvaises relations avec sa belle-mère, qu'il qualifiait, je cite, de sa pire ennemie et de méchante. Il expliquait, je cite toujours, « Vu que mon père n'avait pas envie que je finisse dans un hôpital, il a dû me mettre dans la camionnette. » Et encore de dire que son père n'avait pas le choix.
L'enfant, retrouvé complètement nu et dénutri, ne pouvait pas tenir debout. Selon lui, son père lui apportait de l'eau et de la nourriture deux fois par jour, mais ses conditions d'hygiène se sont dégradées au fur et à mesure.
Il disposait d'un baluchon de vêtements et il devait uriner dans des bouteilles vides. L'enfant indiquait cependant que son papa ne lui lavait plus les vêtements et ne disposait plus de brosse à dents.
L'enquête doit désormais préciser le niveau de responsabilité de chacun et notamment déterminer si d'autres personnes avaient connaissance de la situation sans pour autant porter secours au petit garçon.
Elle a recueilli plus de 700 000 signatures. La pétition contre la proposition de la loi Yadan, rejetée par l'Assemblée nationale. Les députés vont donc se pencher aujourd'hui et demain sur le texte très contesté, proposant de répondre à l'explosion des actes antisémites et de lutter contre ces nouvelles formes soutenues par le gouvernement, mais rejetées par la gauche et une partie du bloc central. Le malaise est palpable. Beaucoup évoquent un texte flou et redoutent, Cyprien Pézril, une confusion entre antisémitisme et antisionisme.
Oui, le texte crée une nouvelle infraction, la provocation à la destruction et à la négation d'un État. En clair, interdire les appels à la disparition d'Israël, considéré comme une forme nouvelle d'antisémitisme. Mais derrière cet objectif, il y a la crainte que cette définition puisse être interprétée trop largement devant les tribunaux, même si les défenseurs du texte promettent pourtant que chacun sera libre de contester la politique de Benjamin Netanyahou. Alors pour s'en assurer, en commission, les socialistes ont voulu que ce soit écrit noir sur blanc dans la loi et autoriser, je cite, « la critique même vive d'un État et de sa politique », sauf que cet amendement, il a été rejeté. Voilà pourquoi il y a selon eux un risque d'atteinte à la liberté d'expression, une sérieuse menace, s'inquiète même la Commission consultative des droits de l'homme, pour qui des propos sans lien direct avec l'antisémitisme risquent donc d'être visés.
RMC, il est 7h03. Les dirigeants libanais et israéliens vont se parler aujourd'hui. C'est ce que dit Donald Trump au lendemain des premiers échanges depuis plus de 30 ans entre les deux pays à Washington. La Maison-Blanche qui ne ferme pas la porte à un deuxième cycle de négociations avec l'Iran à l'heure où Téhéran réfléchit à bloquer le trafic en mer Rouge en réponse au blocus américain du détroit d'Ormuz.
Et puis les conséquences de la guerre au Moyen-Orient sur l'économie mondiale, la France n'est pas épargnée.
Preuve en est ce chiffre de la Fédération Procos que vous révèle RMC ce matin de la consommation dans les enseignes non alimentaires, dont les ventes ont baissé de 4,7% le mois dernier par rapport à mars 2025. Les Français contraints à des arbitrages face à la flambée des coûts de l'énergie. Un problème de plus quand on sait que l'an dernier déjà, le taux de privation matérielle était de 13% en France. Résultat d'une étude de l'INSEE, renoncer à acheter des protéines animales, à chauffer ou encore partir en vacances, ne serait-ce qu'une semaine par an. Un Français sur quatre est concerné pour certains. Le scénario se répète année après année. Reportage à Beauvais, Antonin Audion.
Pendant les vacances scolaires de ses deux filles de 6 et 8 ans, Igor a choisi de les emmener au parc.
Avec les enfants, on n'est jamais parti en vacances. On essaie de s'occuper comme on peut. Mais j'aurais promis, dès que je récupère un véhicule, je les emmène à une plage.
Ni plage, ni montagne pour Sarah, question de budget.
Pas de vacances de prévu, pas de départ en vacances en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, si on veut avoir une maison, payer un crédit, que les enfants ils puissent faire un sport, qu'on puisse payer les soins, Hier, j'avais l'orthodontiste, c'est 1050 euros qu'il faut sortir. Bah, c'est des budgets qu'après, on ne met pas ailleurs. Donc, il faut avoir des priorités. Les vacances n'en font pas partie, non.
Parce qu'elle voit son pouvoir d'achat se réduire, Alicia est partie en vacances pour la dernière fois.
Il y a 2 ans. J'avais trouvé en particulier pour 10 jours 650 euros quand même. Après, quand on compte l'essence, le péage et tout, ça revient très cher. Et là, vu le prix de l'essence, à mon avis, c'est pas cette année qu'on va pouvoir partir encore.
La flambée des carburants contraint un Français sur 3 à renoncer à partir en vacances ou en week-end, selon un sondage Elab pour BFM TV publié hier.
Vous, une fois vos factures payées, est-ce que vous réussissez à partir en vacances? Appelez-nous au 3216 pour partager.
670 salariés dans la crainte du groupe Fibre Excellence, dernier producteur de pâte à papier marchande en France. Le groupe qui détient 2 usines sur le territoire s'est déclaré en cessation de paiement. Hier, l'activité se poursuit dans l'attente d'une décision de justice. Reportage à Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, sur l'un des sites concernés. Jean-Wilfried Forquès.
À l'heure du déjeuner, le risque d'une fermeture prochaine de l'usine inquiète les habitants.
Une activité qui s'arrête est dramatique.
J'ai l'impression que ça va fermer. Et c'est bien regrettable parce que c'est quand même une véritable institution. Il y a beaucoup d'emplois.
L'usine de Saint-Gaudens compte 270 salariés, tout comme celle de Tarascon dans les Bouches-du-Rhône, et génère 5000 emplois indirects. Laetitia Carlier est la gérante d'un restaurant dont une bonne partie des clients travaillent pour Fibre Excellence.
Au moins 30% de ma clientèle. Des gens que je livre tous les jours, des gens qui font des soirées, qui font des anniversaires.
Des générations de Saint-Gaudinois ont travaillé à l'usine de pâte à papier. C'est le cas de Sébastien Oustric, délégué syndical CGT.
J'ai passé plus de temps dans cette usine qu'avec ma famille. Donc aujourd'hui, mon père y a travaillé quasiment 30 ans, même plus peut-être. Moi, 30 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont inquiets. Ça fait des mois de mois que ça dure.
Pourtant, le responsable syndical veut garder espoir, tout comme le maire Jean-Yves Duclos.
Je suis certain que cette usine est rentable avec une diversification à faire dans les mois à venir pour pouvoir pérenniser à long terme cette activité.
Le 27 avril prochain, le tribunal de commerce de Toulouse devra se prononcer sur la poursuite ou non de l'activité.
Le Bayern Munich rejoint le Paris Saint-Germain dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Les Bavarois se sont qualifiés hier soir à l'issue d'un match complètement fou. Victoire 4-3 face au Real Madrid de Kylian Mbappé éliminé. Les Allemands ont donc rendez-vous avec le Paris Saint-Germain. Ce sera le 28 avril au Parc des Princes pour ce match aller des demi-finales de la compétition. L'impatience, vous allez l'entendre, monte déjà pour les supporters parisiens. Partagez, Corentin Roland, entre excitation et fébrilité.
Au milieu des Munichois, dans un bar du nord de Paris, Sacha, supporter du PSG, observe le futur adversaire des Parisiens.
Moi, en tout cas, ça me fait peur, parce que c'est l'équipe la plus cohérente dans le jeu.
Un duel au sommet de ces demi-finales de Ligue des Champions attend Paris, tenant du titre, et le Bayern. Les Allemands ont renversé le Real 4-3 hier et sont la meilleure attaque d'Europe cette saison. Jules supporte le PSG depuis son enfance.
Le Bayern, ils sont très forts depuis le début de la compète. On va avoir un très gros match avec probablement les deux meilleures équipes d'Europe actuelles.
Le danger numéro 1 bavarois est ciblé et il est français.
Olise, il fait très mal sur le côté droit.
Michael Olise fera face au Ballon d'Or Ousmane Dembélé et sa bande. Et si les Parisiens se sont inclinés contre le Bayern en novembre, cela n'inquiète pas les supporters.
Je reste quand même assez serein, on a un très bon collectif.
C'est des phases finales, il y a beaucoup plus d'enjeux, beaucoup plus de tensions. Et on sait que le PSG est très fort dans ces moments-là.
La demi-finale aller aura lieu à Paris, le retour à Munich, où il y a un an, le PSG a décroché sa première Ligue des Champions.
Et l'autre demi-finale opposera Arsenal à l'Atlético Madrid. Une place dans le dernier carré d'une Coupe d'Europe, ce serait historique pour Strasbourg, opposé à Mayence ce soir, Ligue Europa Conférence. Les Alsaciens partent avec 2 buts de retard dans cette rencontre à vivre dès 21h sur RMC.
C'était le journal de Thibaut Texer.